y a des auditeurs qui nous signalent de la grêle dans le secteur de Lac-Beauport. S'il y en a d'autres qui peuvent confirmer, sinon je call bullshit!
Ben...
418-971-1021. On a des bons nuages là,
mais
qui s'en viennent.
Mais c'est ça que j'allais dire. Ils sont bas puis ils sont toutes sortes de couleurs. Là.
Il y a deux avertissements météo présentement sur les radars d'Environnement Canada.
C'est qui de vos deux qui, au texto de grêle, a répondu? C'est-tu vrai?
C'est moi.
OK. Sceptique dans l'âme.
Toujours, toujours, toujours. Des orages pourraient se fermer cet après-midi, se former, pardon, et provoquer localement des chutes de ce qu'on appelle de la petite grêle. La grosseur des grêlons devrait se limiter à du A+. Non, c'est pas vrai. Aux environs d'un centimètre.
Hein?
Quoi? L'espère. Ce qui ne devrait pas causer de dommages matériels.
Non, nous niaises-tu, grêle sur Amel?
Sur Amel?
Ici, à Charlebourg, il pleut grêle.
Bon, OK, ben, on va l'avoir. On va l'avoir dans le pif dans pas long, dans le secteur Le Bourgneuf. Donc, on est dedans. L'autre alerte météo, sérieusement, c'est des risques de gel au sol pour cette nuit, demain matin et également la nuit de jeudi à vendredi. Dans le détail, qu'est-ce qu'on a? D'abord, 9 degrés présentement à Québec. Quelques averses cessant ce soir avec un minimum de moins 1. Demain, vendredi, alternance soleil-nuages, 60 % les probabilités d'averses avec un maximum de 11 degrés. Samedi, pour l'instant, tout est beau. Du soleil, max de 13. Retour de la pluie pour dimanche avec un maximum de 15 degrés sur les routes. Audrey.
Peut-être vous dire que si vous êtes sur la 136S Boulevard Champlain, à l'intersection rue du Domaine des Retraités, la voie de gauche est barrée.
Encore?
Il y a des travaux, ouais. La dernière mise à jour, ça fait à peu près une vingtaine de minutes, là. Puis on est pas mal toujours à même place. Sinon, Henri IV, il y a un incident sur Henri IV, direction sud, fin de la bretelle pour la capitale Est, c'est partiellement entravé. Direction nord, capitale Est, la voie de droite qui est bloquée. La SQ qui est sur place, là, c'est une panne qui prend bien de la place en ce moment. Pour le reste, ça roule pas si.
Ça déboule sur les textos. Il y a juste ici qui grêle pas ou à peu près. Là, on me signale Charlebourg, on me signale Limoilou, on me signale Lac-Beauport, Shannon et ainsi de suite. Fait que ça va être nous autres. J'en ai eu un peu sur le chemin de la sagamité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À Charlebourg, il pleut, il grêle.
Il
grêle sur Amel, confirmé pour Lac-Beauport. Donc, on est dedans présentement. On va passer à travers une autre belle journée. Au moins, le Canadien a gagné hier.
Ben oui, hein?
Hey, sérieux, il va falloir s'en reparler de ça.
Oh là là, que ça n'a pas été facile.
Je me suis endormie à deuxième période, là.
Ouais.
J'ai comme décroché.
Pourquoi?
Je me suis réveillée à troisième.
Ton équipe
là.
Gagne pas, fait que tu bougonnes?
Ben, veux-tu être bonne honnête avec toi? Non, mais j'avais une frustration. Parce que je pense que quand t'aimes pas, mettons, c'était tellement serré, ça allait tellement d'un bord puis de l'autre, ça bougeait tellement qu'il y avait une excitation constante. Hier, j'avais une frustration.
De ne pas être excité constamment.
Oui.
T'aimes pas ça, la domination?
J'étais pas assez stimulée. Ça fonctionnait pas du tout.
OK. T'as écouté le hockey avec qui, juste par curiosité?
Mon père va pas là.
Ah, boy! Oh, t'es mon jeu! On va faire autre chose.
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblanc.
Il est grand, comme un défenseur des sabres de Buffalo, mais discret comme Cole Caulfield depuis le début des séries. Alex Leblon, planificateur financier, bonjour.
Je serais un petit défenseur des sabres.
Oui. Un défenseur des sabres format nain.
Je pense que leur moyenne, c'est 6 pieds 3.
Oui, exact. T'as du 6 et 7, du 6 et 4, du 6 et 5. Puis c'est drôle, tout le monde parle de la grosseur, des gros bonhommes des sabres, mais moi, hier, c'est la vitesse qui m'a jeté à terre
des
de
gros
cette
bonhommes
équipe-là.
Vite.
La vitesse d'exécution des sabres où le Canadien avait de la misère à suivre. Puis le nombre de fois qu'ils se sont ramassés en 2-1, en 3-2, avec des joueurs qui regardaient en arrière, ils disaient, ils sont rendus où?
Ils sont partout.
Ça va vite.
Puis les gens ne me croiront pas, parce que là, j'ai l'air d'un gars qui saute sur un bandwagon, là. Mais ça fait plusieurs années que je suis un fan des sabres. Mon club, après le Canadien...
Tu le dis là.
Ben, j'ai un hoodie à ma fête, il y a plusieurs années, là, il y a 3 ou 4 ans, j'ai demandé un hoodie des sabres à ma blonde.
Puis là, tu fais quoi ces temps-ci?
Mettons
hier, t'étais du bord des gros ou des petits bonhommes?
Ben, c'est parce que Buffalo, là, c'était... L'anomalie, c'est pas cette année. L'anomalie, c'est les 3-4 dernières années.
Qui était supposé d'être bon.
Ça avait aucun sens que ce club-là perce pas.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est exact. Les gens le voient à l'envers. C'est comme, hey, c'est une surprise que Buffalo soit bon. Moi, je comprenais pas pourquoi Buffalo était pas bon l'an passé, puis il y a deux ans, puis il y a trois ans. C'est le même club.
Là, t'as-tu gagé sur cette série-là? Ton pôle, il va dans quelle direction? Là?
Ben, je serais content d'un bord comme de l'autre, là. Honnêtement. Mais j'ai l'impression que Buffalo, c'est la violence à l'état pur. Là. C'est des gens qui sont pas gentils, là.
Ben là, tu parles des spectateurs ou tu parles des hockeyeurs sur la glace?
Les deux.
Les deux, ouais.
Parce que moi, j'ai vu Tampa, puis en Fred pas gentil. Ouais, disons qu'on n'a pas la même équipe, là.
Hier, les Sabres ont juste mieux joué, dominé, puis torché. Le Lightning, eux autres, ils étaient méchants, puis ils fessaient, là.
Ah, Buffalo sont très méchants aussi.
C'est beau, on va te croire sur parole.
Oh, ouais.
Et la suite, ben, ce sera demain soir. Hey, Alex, tu veux nous parler des millionnaires qu'on connaît peut-être pas?
Ouais, exact. C'était... fait semaine passée dans la presse, il y avait un dossier que j'ai trouvé super intéressant sur les espèces de millionnaires un peu invisibles. Tu sais, on parle pas nécessairement de PKP. PKP, il y a, je sais qu'il est milliardaire.
Ça, c'est
correct,
quand même
là.
Multi. Là,
ouais. Ouais, c'est ça. On comprend. On parle pas d'Alain Bouchard de Couche-Tard. On parle juste des gens au quotidien qu'on côtoie dans nos milieux de travail, qu'on côtoie peut-être dans nos familles ou dans nos cercles d'amis, qui sont millionnaires sans nécessairement qu'on le sache.
Y en a-tu tant que ça, des millionnaires au Québec?
Non, il n'y en a pas tant que ça. Ici, là, on parle de millionnaire, mettons, liquide. Tu as 1 million cash.
OK, c'est ça que je voulais savoir. Si tu as une propriété qui vaut au-dessus d'un million, tu n'es pas nécessairement millionnaire.
Non, ici, on parle vraiment de gens qui ont accumulé 1 million $ en actifs liquides.
Okay.
Ça veut dire en placement. Essentiellement, là, on parle de un peu moins de 10% de la population québécoise.
C'est quand même une personne sur 10.
C'est du monde. Oh, ouais. On est quand même quasiment 9 millions en place. Fait que c'est quand même du monde, mais ça reste que c'est relativement rare. Ce qui est intéressant, c'est que oui, dans ce 10%-là, t'en as des Alain Bouchard, des Pierre-Carl Péladeau, mais la vaste majorité, c'est ça qui était mis de l'avant dans le dossier en fin de semaine de Nicolas Bérubé dans la presse, la majorité de ces gens-là, c'est des professeurs, des enseignants.
C'est même pas des propriétaires d'entreprises, c'est même pas des travailleurs autonomes, c'est des gens, des salariés, dans le fond.
Des salariés.
Des gens qui ont des habitudes de vie qui font en sorte qu'ils ramassent de l'argent pendant que toi, tu dépenses?
Tu pourrais le voir comme ça. Des gens qui, essentiellement, dans la vingtaine, se sont mis à bien placer leurs pions, qui ont
les
parti...
autres, on les haït.
Ah ouais, tu parles d'une gang de cœur, hein?
Qui ont parti une roue qui, d'un point de vue strictement mathématique, est impossible à stopper à partir de l'âge de 30 ans.
Taboua!
Fait qu'eux autres, ils arrivent à 40, 45, 50, avec essentiellement 1 million ou plus en actifs liquides. Dans l'article, il y en avait
j'ai
un.
J'ai manqué ma vie.
Oui, puis non. C'est... En bas de 50 ans, là, c'est jamais trop tard, monsieur. Ça coûte plus cher, mais
je suis loin du million,
tard.
Je le confirme.
Ouais.
Mais là, ils ont-tu vendu le secret de leur succès? Ben, ils ont gardé ça pour eux autres, là.
Ben, moi, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que le journaliste a interviewé un paquet de ces millionnaires-là, puis ils ont tous donné des conseils.
Okay.
Puis justement, parce que c'est tous des gens qui ont à peu près le même profil, là. C'est des gens qui ont fait grosso modo le salaire moyen, ou à peu près, peut-être un peu en bas, peut-être un peu en haut.
Taboye.
Puis ils ont fait tout à peu près la même affaire.
OK, je suis intrigué.
Le premier conseil, là, qui est celui qui revient le plus souvent, là, c'est « régler vos dettes ». Puis ça a l'air contre-intuitif. Parce que des fois, j'en ai des gens qui viennent me voir et sont comme « Hey, je veux investir », mais qui ont encore 4 000 $ qu'ils doivent sur une carte de crédit.
Mm-hmm.
T'as bien beau dire « Hey, j'investis 100 $ par semaine, puis je reçois mon relevé de placement à la fin de l'année, puis ça dit que j'ai fait 12% de rendement ». On s'en fout comme de l'an 40. Tu t'es appauvri dans l'année, là, parce que tu n'as pas réglé. Tu t'es enrichi de 10% ou 12%, alors que tu as une dette qui te plombe de 22% d'intérêt. Mm-hmm. Fait qu'au net, même si le relevé bancaire il est vert partout puis ça dit plus, tu es plus pauvre que tu l'étais il y a un an. Fait qu'avant de dire « Hey, je me mets en mode accumulation de richesse », ce sont tous des gens qui ont clairé leurs dettes, fait que ce soit carte de crédit, marge de crédit, prêt étudiant. On exclut, mettons, un prêt hypothécaire là, qui est assurément une dette.
Parce que c'est l'immobilier.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est pas une mauvaise dette dans la majorité des cas. Là. Puis l'autre affaire que moi, je rajoute toujours à ça, c'est des gens qui, au fur et à mesure que leur revenu a augmenté, n'ont pas contracté des nouvelles dettes. Puis ça, c'est toujours le killer, là.
J'ai eu une augmentation, donc je peux me permettre d'autres dépenses.
Oui, exactement. Puis ça, c'est le classique des classiques, là. Souvent, les gens, quand ils ont une augmentation, ils vont inflationner leur niveau de vie en conséquence et ils se condamnent à être dépendants de ce nouveau salaire-là pour rester à flot. souvent, les gens qui ont accumulé ce million-là, là, à partir du moment où ils faisaient, je sais pas moi, l'équivalent de 55, 60, 62 000 par année, bien, au fur et à mesure que leur salaire a augmenté, ils n'ont pas nécessairement contracté des nouveaux paiements. Ils n'ont pas nécessairement déménagé dans plus gros. Ils n'ont pas changé leurs habitudes.
Ils ont gardé un niveau de vie à peu près constant, mettons. Fait que dans le fond, tout ce qu'ils gagnaient de plus, c'était de l'extra.
Puis il y a deux affaires là-dedans. Parce qu'il y a des dépenses, moi, ce que j'aime pas, là, surtout quand on parle d'inflationner le niveau de vie, là, c'est de s'ajouter des dépenses récurrentes, de s'ajouter des obligations financières. Puis je vais te donner un exemple. Mettons, j'ai changé mon char la semaine passée.
Mais pourtant, je connais un gars qui disait que la retraite était dans son driveway.
C'est ça qui est intéressant. Parce que là, j'ai des chums que eux autres, ils font des grosses dépenses parce qu'ils sont millionnaires. T'sais, ils ont fait des gros coups en affaires. Puis, fait que là, ils me disent, il faut que tu t'achètes telle affaire. Fait que là, ils essaient de me convaincre de m'acheter un Tesla modèle. C'est lequel?
OK, le plus gros. Ouais. Pas le nouveau à mode qui est pas cher.
Puis là, il était comme, Alex, ça va bien tes affaires. Puis là, tout ce que je vous disais dans les chroniques, là, soudainement, je regardais ça, Tesla. C'est comme,
ça t'a-tu influencé?
Ça m'a comme influencé. Puis là, je regardais ça. Puis là,
les émotions ont pris le dessus, Alex.
OK, le paiement, c'est 799$ par mois.
Ouch.
Puis là, j'étais comme, OK, ça peut fitter. Puis là, OK, les assurances, c'est comme 250$ par mois. Puis là, finalement, je suis revenu à la raison. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez Kia. Puis j'ai vu un espèce de Rio qui... Écoute, tu le regardes, puis tu pognes le cancer des yeux. Il est pas beau, là. Mais...
OK, donc toi, t'achètes les couleurs LED. Wow. Je me suis toujours demandé qui les achetait, les couleurs LED. Ouais.
Kia Rio, 6 000$, ouais. 2013. Mm. Un peu de job à faire dessus. Faites ça. Ça m'a coûté 1 500 à 2 000$. J'ai le char.
Tu vas être capable de faire ce que tu as besoin de faire avec, te déplacer.
Je viens ici, je retourne chez nous, puis des fois, je vais au Ashton.
Puis t'as pas de paiement mensuel.
J'ai pas de paiement mensuel. Mais c'est ça l'affaire. C'est que, hey, je fais vraiment plus d'argent que quand j'étais à l'université, mettons, ou quand j'étais avec vous autres à l'autre place. Fait que je pourrais dire, hey, je m'en vais chez BMW, ou je m'en vais chez Tesla, puis je me rajoute le paiement. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je deviens dépendant de mon nouveau salaire. J'ai pas le choix. Tu sais, si quelqu'un me fait chier dans mon day-to-day, j'ai pas le choix de l'accepter parce que là, je l'ai le paiement à 799 plus l'assurance auto. Fait que souvent, ce que ces millionnaires-là ont fait, c'est qu'ils l'ont inflationné leur niveau de vie, mais avec, mettons, des voyages ou ce genre d'affaires-là. Des paiements que tu fais peut-être une fois dans une année ou une fois ou deux ans, mais dont tu n'es pas totalement dépendant. Ils n'arrivent pas à chaque semaine, à chaque deux semaines, à chaque mois. Fait qu'au niveau des dettes, là, c'est essentiellement ça, les conseils qui étaient mis de l'avant là-dedans.
Salutations d'un auditeur qui nous dit « Bonjour, j'ai 54 ans. J'ai commencé à faire des placements à l'âge de 16 ans. J'ai pris ma retraite à 49 ans. Ouais. Aujourd'hui, je vis du fruit de mes placements et j'ai un très beau rythme de vie. En passant, j'ai cumulé plusieurs millions de dollars dans mon compte de placement. »
Ben, tu vois, c'est... Mettons quelqu'un qui commence, prend quelqu'un qui commence à 20 ans puis qu'il prend sa retraite à 65, OK? 50% de ses revenus à la retraite vont provenir de ses 10 premières années d'épargne.
Hey, c'est fou,
des années de 20 à 30. Pourquoi? Parce que son argent travaille vraiment plus longtemps pour lui, tu sais. Puis ce que le monsieur dit, je présume qu'il a fait le deuxième conseil qui est préconisé dans l'article, pratiquer l'épargne automatique.
OK.
Puis ça a l'air vraiment plate.
De voir l'argent partir. En fait, tu le vois pas. Là. Il part seul. C'est pas toi qui vas faire un mouvement pour le placer.
Oui. Puis nous autres, on avait fait au cabinet une analyse de notre propre clientèle parce que justement, on n'a pas tant des médecins spécialistes qui font 700 000 $ par année. S'il y en a à l'écoute,
bravo.
Lui, c'est Alex Leblanc.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais il n'y en a pas. T'sais. Fait que c'est généralement des gens qui ont tous le même profil. Puis on voulait voir, OK, pourquoi il y en a qui sont dans le premier tiers au niveau de la richesse? Pourquoi il y en a qui sont dans le troisième? Parce qu'ultimement, ils ont tous la même affaire aux presse dans le coffre à outils. Puis oui, des fois, il y en a que son père est mort puis il a eu 500 000 de l'assurance vie. Mettons que tu enlèves eux autres.
Oh, ouais.
Le facteur principal qui différenciait ces deux-là, là, c'était les gens du premier tiers. Il y avait presque tous une épargne systématique. Fait que sans même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un montant qui partait. Mm-hmm. Puis les gens dans le troisième tiers, il n'y en avait presque pas. Qu'il y en avait.
Moi, j'ai pas eu le choix de faire ça. Je m'étais ouvert un compte à côté de mon compte en disant « Je vais mettre de l'argent. » Puis c'était un montant fixe que je m'étais dit « Je vais le mettre à chaque paye. » Mais dès qu'il y a quelque chose, tu vas piger dedans. Là, maintenant, il part. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est avec un planificateur financier. Fait que je peux pas aller piger dedans comme je veux. Faut que je fasse la demande. Fait que dans ça, là,
plus gênant,
tu réfléchis à ta dépense. Ouais. Tu sais, quand c'est mon compte voyage, ça me dérange moins. Mais, tu sais, tout seul, j'ai jamais été capable de le faire. Puis pourtant, il y a rien de gros qui a changé dans ma vie. Là.
Ben, c'est le principe qui appelle se payer en premier. Mm-hmm. Puis, Audrey, on en a parlé tantôt. C'est toujours, tu sais, moi, là, la première affaire qui part dans quand je reçois de l'argent, c'est mon épargne. Fait que ce que je fais avec le reste, on s'en fout un peu. T'sais, parce que, je te donne un exemple, hier, je suis allé à la souche, à Limoilou, prendre une bière avec un de mes chums. Puis le but, c'était d'aller à la souche, prendre une bière, puis ça finit là. Et là, tu regardes ça, puis il y a des oignons français.
Ben oui.
Et le Colin.
C'est bon, en plus.
Ben ouais, c'était que, ben 15$. Mais ça, c'est dans 15$, j'avais pas prévu. Fait que si, tu sais, fait que là, finalement, ah, puis une bière, finalement, ça faisait pas.
C'est peut-être deux.
Oh, ouais, ça va pas se noyer tout seul, là, cette peine-là. Là.
fait que finalement, ça y a fait de la peine que les sables gagnent.
fait que finalement, ce que tu pensais qu'il allait coûter 12$, ça coûte 58. Fait que ça, c'est une fois dans ton mois. Ça se peut que ça arrive une autre fois. Ça se peut que tu aies un imprévu. Fait que la morale là-dedans, c'est que si tu épargnes juste ce qui reste à la fin du mois, il ne reste jamais rien. Il y a toujours quelque chose qui arrive.
L'auditeur nous a réécrit. Il dit, en effet, tous les mois, j'avais un montant qui se retirait automatiquement de mon compte pour ma retraite.
Moi, ce que j'aime illustrer, puis ça, c'est un cas classique, là, j'aime dire aux gens, essaye de faire en sorte que, surtout des gens, mettons, qui ont un job au gouvernement, un job de bureau, c'est comme plus facile à illustrer, là. Essaye de te dire que la première heure de ta journée, tu as travaillé pour toi.
Ça ah, j'avoue que c'est motivant, ça.
Mettons que tu fais 28$ de l'heure, qui est l'équivalent de 60 000$ à peu près. Là. OK, de 8 à 9 ou de 9 à 10, là, ton 28$, là, tu le travailles pour toi. Après ça, lève-toi de ta chaise, va prendre un café, puis là, tu commences à travailler pour Revenu Québec, Revenu Canada, la Banque nationale, toutes les affaires que tu as à payer. Mais ta première heure, travaille-la pour toi. Travaille-la, fais une passe à la palette, fais une passe à Alex du futur ou Denis du futur. Puis après ça, les 7 ou 8 autres heures de ta journée, tu géreras le reste. Mm-hmm. Fait que juste de le faire de cette manière-là, ça permet comme de le compartimenter dans sa tête. Puis ça fait des petits, là, l'auditeur en est un exemple parfait.
Le troisième conseil, on est avec Alex Leblon, planificateur financier, qui nous dit que des millionnaires, il y en a autour de nous autres. Ils sont discrets, mais ils ont des bons conseils et des bonnes recommandations qui font la différence.
Ouais. Troisième conseil, utilisez les abris fiscaux qui sont à votre disposition. On parle souvent au Québec particulièrement qu'on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. C'est vrai, c'est factuel. On a cette réalité-là. Par contre, le gouvernement nous dit aussi, hey, écoute, je te prends beaucoup d'impôts « upfront ». Par contre, voici un paquet de manières par lesquelles tu peux optimiser ta situation, par lesquelles tu peux faire des placements à l'abri de l'impôt.
Puis ce bout-là t'appartient.
Ce bout-là t'appartient à 100 %. Ouais. Fait qu'ils te le prennent upfront sur ta paye, mais ils peuvent t'en redonner une bonne partie si tu décides d'utiliser ces abris fiscaux-là. Fait qu'on parle du CELI, on parle du REER, on parle du CELIAP pour les gens qui n'ont jamais été propriétaires d'une maison auparavant. Le but, c'est pas de faire un cours sur chacun de ces régimes-là. On l'a déjà fait, puis regarde, c'est pas ça le point. Là.
Mais c'est de s'en servir.
Moi, ce que... Puis j'ai peut-être un problème psychologique aussi. Là. Soyez bien ouverts à ça. Là. Ça se peut que ce soit moi le problème. Là. Mais j'essaye vraiment. Puis mettons, mes gros épargnants, là, on le fait de cette manière-là. Là. Quand je reçois mon avis de cotisation du gouvernement fédéral là, puis du gouvernement provincial, les droits de cotisation qu'ils me donnent, là, j'essaye de le considérer comme une dette. Si l'Agence de revenus du Canada me dit okay. « t'as 7 000$ de droits CELI », moi, dans ma tête, là, j'ai 7 000$ sur une carte de crédit. Puis il faut que je me rende là. Je me suis comme programmé de même. Fait que dans mon année, tu sais, j'essaie vraiment, OK, maximise. Puis une fois que je me suis rendu au bout de ça, c'est là que je me dis, OK, ben, achète-toi des billets pour le Canadien ou peu importe quoi.
T'as réussi ton objectif.
J'ai comme, ouais. J'ai remboursé ma dette. Parce que je le regarde d'un point de vue strictement, tu sais, C'est drôle parce qu'il y avait quelqu'un la semaine passée ou il y a deux semaines là, dans les affaires, je pense, qui disait hey, les abris fiscaux sont trop généreux au Canada. Puis c'est vrai. D'un point de vue finance publique, ça fait aucun christi de sens qui nous permette de faire ça.
C'est à nous autres d'en abuser.
C'est de la folie furieuse.
Là, je réalise qu'il y a certains de ces trucs-là que je connais, mais que je ne suis pas capable de mettre en fonction. J'ai juste une question concernant tes millionnaires qu'on ne connaît pas. Là.
Ouais.
Ont-tu des enfants?
Il y en a que oui, il y en a que non.
OK.
Puis, tu vois, de se réconforter.
Non, mais
je
pose la question. Oui, c'est un petit peu pour ça. Là, que...
Mais tu vois, il y en a un qui, justement, il se fait beaucoup critiquer pour ça. C'est un gars qui a pris sa retraite vraiment tôt. Là. C'est Jean-Sébastien Pilote. Il a écrit un livre. Il fait du bon contenu. Il est intéressant.
Okay.
Mais il n'a pas d'enfant. Il se fait souvent critiquer pour ça. Puis on s'entend, là, on est très en mode chiffrier Excel dans la chronique, là, mais il y a la vraie vie aussi. Là. Fait qu'il faut toujours trouver le sweet spot entre les deux.
Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent « Hey, mais comment tu fais pour placer de l'argent? » Tu sais, en dehors des REER, des CELI, puis tu sais, dans un compte épargne, tu n'as pas un gros taux. Mettons que quelqu'un, à matin, après-midi, pardon, t'écoute puis dit « Moi, j'aimerais ça placer. Je commence par où? Je place ça où? Je fais comment? »
Bien, la première chose, tu sais, tu as toujours deux affaires. Tu as le véhicule que tu utilises pour faire ton placement et tu as le placement à proprement dit. Fait que la première affaire, là, c'est ça te prend un véhicule. Fait que mettons quelqu'un qui commence, là, souvent le premier qu'on va utiliser, c'est le CELI. Là. Plus ça, c'est pas une recommandation, là. Chaque dossier est unique. Là. Mm-hmm. Mais ce qu'on fait ultimement, c'est qu'on rouvre un compte. Fait que OK, là, on rouvre un compte CELI, admettons. Notre boîte CELI existe. Une fois que la boîte existe, on peut faire ce qu'on veut avec ça. On pourrait investir dans l'affaire la plus risquée sur la planète. T'sais, mettons un fonds de crypto-monnaie qui peut faire à la fois plus 100 % puis moins 99 % dans la même semaine. Pas tant que ça, là, mais
oh, oui.
Ou on pourrait avoir quelque chose de super conservateur, un certificat de placement garanti de la banque qui va nous donner 2,75 %. Les deux sont dans ma boîte CELI, fait que ça va répondre aux critères du CELI. Fait que, ultimement, c'est ça. C'est de se créer ces boîtes, puis après ça, de faire des investissements via ces boîtes-là. Mais si, justement, vous n'êtes pas quelqu'un pour qui la science, la finance est une science qui vous vient naturellement, bien, se faire aider, le coût que ça représente est probablement moindre que le coût d'une erreur. Là.
Dernier conseil pour la route, Alex?
Ça, je le trouvais contre-intuitif parce qu'on a tendance à penser que, OK, le monde qui se ramasse millionnaire sur des salaires de 60-70 000, c'est des Christy de rabat-joie.
C'est du monde qui se prive de tout.
C'est du monde qui se prive de tout. C'est du monde qui, quand la facture arrive, sont aux toilettes. C'est du monde qui sont gratissaines sur tout. Plus souvent qu'autrement, c'est justement des gens qui ont beaucoup voyagé. C'est des gens qui ont beaucoup dépensé sur des expériences, mais ils refusent de dépenser sur des dépenses, sur des choses qu'on pourrait considérer comme futiles.
Futiles ou matérielles.
Puis je vais vous donner un exemple que, mettons, moi je fais beaucoup avec ma blonde, là, juste à l'épicerie. On a les moyens là, d'acheter du bœuf à plein prix là, demain matin. Crème, le poulet est à moins 30 %. Pourquoi j'achèterais du bœuf? C'est juste niaiseux, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, même chose à l'épicerie. Tu rouvres l'armoire chez nous, là, tu pognes un coup de soleil tellement que c'est jaune. Là. La marque maison, là...
C'est ton ami?
C'est fou raide, là. Mais je regarde le beurre de peanut avec les deux oursons, puis je regarde celle-là qui est jaune, puis je suis comme, crème, il n'y a pas de logique à prendre les deux oursons, là, même s'ils sont bien cute. Là. Le jaune fait bien un job, puis il y a 1,50 de moins. T'sais. Fait que souvent, là,
c'est cette accumulation-là qui permet souvent de ramasser de l'argent. Là.
Exactement. Fait qu'on pense que c'est des gens justement qui se sont privés sur tout. Non. Ils l'ont fait, le voyage à Disney, peut-être. Puis c'est juste que sur la majorité de leurs dépenses au quotidien, ils ont pas le petit logo Patagonia ici, puis ils n'ont pas des belles... J'en ai une veste Patagonia en passant, mais c'est ma mère qui me l'a acheté.
Bon, je ne dépenserais
pas pour ça. J'aurais pas dépensé pour ça. Fait que tu sais, ce genre de choses-là, ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais acheté. Fait que fais ça de 20 à 42, puis quand tu reçois ton relevé de placement, ça se peut que tu n'aies pas pire surprise.
Des petites choses à réfléchir, je pense, et même à discuter pour ce qui est des couples et des familles.
Des conférences pour des ados et des jeunes adultes, ça ne te tente pas d'en donner? J'ai l'impression qu'il y a plein de parents qui t'entendent puis disent j'essaie de le dire à mon jeune, puis il ne catche pas.
Je suis allé au cégep de Lévis il y a deux semaines faire une conférence. J'ai pas été si inspirant que ça, je pense.
Non, t'as pas eu beaucoup d'écho, t'as pas eu d'impact?
Non, mais c'est dur. Puis moi, je le comprends parce que mon père essayait, mettons, de me transmettre ça quand j'avais 18 ans. Là. Mais on peut pas blâmer. Tu sais, moi, à 18 ans, j'étais chaud de la veille.
C'est
puis
ça,
c'était comme.
Pas là,
c'était où c'est qu'on va
je
à soir?
J'ai vu dépenser des fortunes dans des jukebox.
C'est vrai?
Entre autres, oui, ouais. oui.
Fait, puis c'est normal. Puis c'est correct. Puis moi, je trouve ça. C'est dur de trouver le sweet spot entre essayer de convaincre les jeunes de s'y intéresser, mais les laisser vivre leur jeunesse non plus. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas tant qu'un jeune de 18 ans se prive de tout, puis soit tout seul dans sa chambre, puis mette de l'argent de côté.
C'est pas ça la vie, là.
Je veux qu'il aille faire des niaiseries.
Ouais.
Fait que mais je veux pas qu'il fasse trop longtemps non plus. Fait que c'est pour ça que oui, c'était...
Fais-le de bonheur, économise vite.
Ben, tu vois, moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Mon 18 à 23, c'était pas une belle recommandation financière. Là. C'était à brasser, là. Mais à partir de 23, c'était correct.
Alex, conseil de livre en terminant?
Ouais, ben tout ce qu'on vient de parler, Nicolas Bérubé, qui est le journaliste province de la presse, il a écrit un livre qui s'appelle « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », qui vraiment là, détaille ce que je vous ai dit là, mais en plus longtemps qu'une chronique de 10-15 minutes. Là. Fait que le livre est disponible partout. Puis si vous êtes plus quelqu'un de livre audio puis que justement vous voulez pas dépenser, il est gratis sur la plateforme audio de Radio-Canada. Je pense que ça dure 5 heures, le livre audio, là, mais vous écrivez ça, « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », Radio-Canada, vous tombez dessus, puis vous avez peut-être 5 heures de bon contenu.
On va commencer par l'écouter gratis, puis essayer d'appliquer tes principes de vie. Alex Leblon, merci.
Merci à vous autres.
Alex Leblon, qui est planificateur financier, 15h28, 418-971-1021. Gravel. Il y a eu des annonces un peu plus tôt cet après-midi. La première ministre, le maire de Québec concernant l'itinérance. Notre journaliste Mathias Turcotte va venir s'asseoir avec nous autres dans les prochaines minutes, nous faire entendre des extraits, puis nous mettre à jour sur ce qui a été annoncé en détail. Une histoire qui fait beaucoup réagir. En fait, c'est la réaction de Jean-François Posé des Cowboys fringants au fait qu'un groupe hommage aux Cowboys fringants annonce une mini-tournée de concerts européens qui semble l'avoir fait tilter sur les réseaux sociaux. Puis il a quand même été assez...
raide.
Assez mean, assez raide, effectivement. Même que mon premier réflexe, moi, ça a été de regarder à quelle heure il a fait ce post-là. C'est un post de 23 heures après une coupe de vino de trop. Puis finalement, on a vérifié avec Mathias, puis c'est à 14 heures de l'après-midi que ça a été fait. Il a écrit « Ça commence à faire les bandes d'hommage qui pompent le fric à même nos chansons sans rien nous demander. Écrivez vos tunes, les boys. » En visant le groupe L'Expédition, qui a annoncé une tournée pour l'Europe.
C'est sûrement un groupe multimillionnaire. Hein?
Je pense pas, non. Sur la page Facebook du groupe L'Expédition, on peut voir la publication qui a été reprise par Jean-François Posé. Il y a plusieurs personnes qui félicitent les musiciens, mais il y en a d'autres qui ont posé des questions suite à la réaction du gars qui a écrit la plupart des tunes des Cowboys fringants. Y a-t-il des droits d'auteur à une tournée comme ça? Le groupe répond oui. Depuis le début, nous payons les redevances pour chacun de nos spectacles. Tous les groupes hommages doivent le faire par obligation, mais surtout par respect pour le groupe et son œuvre. La personne ajoute ensuite que Jean-François Posé a fait un post à ce sujet. L'Expédition, le groupe, répond « On l'a vu, on est même en discussion avec son adjointe. » Il y a beaucoup de formations qui se promènent, qui sont des groupes hommages aux Cowboys fringants, parce qu'il y a de la demande, évidemment. T'as la Grand Messe, active depuis 2015, l'Expédition, Joyeux Calvaire, Break Syndical, qui font partie de la dizaine de formations qui se produisent un peu partout. Moi, les groupes hommages, je trouve ça extraordinaire pour un paquet de raisons. Quand j'étais un ticu, ça m'a permis de voir de la musique que je pouvais pas voir autrement.
Oui.
Je vis au Saguenay. La première fois que j'ai vu du Pink Floyd sur une scène, c'était un groupe hommage.
Oui.
Moi, j'étais fasciné. Comment on fait cette musique-là live? Je veux voir un spectacle de Pink Floyd et je me fous de qui joue la musique. Je veux juste voir, je veux juste pogner le feeling. Mm-hmm. Un peu plus tard, ça m'a permis de voir des shows que je pourrais jamais voir. Un show de 1973, par exemple. On est parti, une gang de flots de secondaire 5. Ma mère, dans Tempête de neige, qui est venue nous mener à un show de Musical Box à Québec. Ça venait de commencer, Musical Box. C'était au Centre des congrès. Je pense que c'était le deuxième ou troisième show.
C'est qui, ça? C'est Genesis?
Ça, c'est ceux qui rendent hommage à Genesis, là, qui refont le show avec Peter Gabriel déguisé 1973. Tu sais, quand tu te déguisais en jean de poitrine puis que ça capotait pas, tout le monde en parle. Tu sais, le monde trouvait ça cool dans ce temps-là de se déguiser. Ça m'a... tu sais, plus ça va, plus les groupes hommages font du travail de passion qui est exceptionnel.
Mais à la base, je pense que c'est ça le moteur. Il y a personne qui se part un groupe hommage en disant « Ha! Ces tunes sont bonnes, moi, y prendre, puis je vais me mettre riche. » Je pense qu'on n'est pas là pantoute, puis que la plupart des groupes hommages, c'est parce qu'ils aiment l'artiste. Puis ça leur permet de jouer cette musique-là. Puis des fois, t'as pas le temps là, d'écrire les tunes, puis d'autres fois, t'as pas le temps. Tout ce que tu veux, c'est une fois de temps en temps pouvoir incarner ces chansons-là dans des festivals, dans des petits bars. Puis, Dieu, moi, écoute, ça m'a fait... j'ai trouvé que c'était fort comme réaction.
C'est un hommage à Ghost, là, qui a tout fait le décor en miniature, puis il amène ça au Cécile et Ramon une fois de temps en temps.
C'est un travail de passion.
Écoute, Rammstein, le groupe Rammstein, T-I-M-E, qui est un groupe hommage, ils font en pyrotechnie, ils font tout à petite échelle.
Mais
c'est le plus proche que tu peux être de la vraie affaire.
C'est de la pub pour l'artiste qui a créé.
Les gars se mettent pas riches avec ça. Ils se ruinent probablement avec ça. À bâtir les décors, puis à faire les setups, puis la pyrotechnie.
Je pense qu'il y a une grande différence entre ces groupes hommages-là. Puis ceux qui en font une carrière, mais ça, souvent, ça va être avec l'accord de la famille de l'artiste ou avec l'artiste. T'sais, si on pense à Elvis Story quand il y avait ça, etc., ouais. ce genre d'affaires-là, où pendant des années, tu es capable de rouler, ça, c'est une chose. Puis je pense qu'il n'y a personne qui le fait sans avoir le OK. Mais tu sais, hey, les festivals là, sont bien contents d'avoir des groupes hommages. Le monde est bien content de les entendre. Ça fait de la bonne musique, ça fait de la musique live. J'ai trouvé ça rough comme réaction.
Audrey, Max Larouche, dans le Point de Max, s'est entretenu avec Pat Bissonnette.
Oui, le frère de Bob Bissonnette, parce qu'il y en a.
Il y a du groupe hommage autour.
Ben oui, ben oui.
Tu sais, Bob Bissonnette en est un qui a marqué, décédé en 2016.
Puis on sait que c'est de la musique de party va rassembler le monde. Puis ultimement, ça peut être payant.
Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant que Max le reçoive parce qu'il y avait la question de début de conversation sur comment eux décident de gérer ça, la famille, je parle de Bob Bissonnette, parce que c'est un peu semblable, c'est pas le même type de carrière, on s'entend, mais si on se ramène au Québec, parce que là, on parle d'hommages d'artistes internationaux décédés,
avec une proximité. Là.
Tandis que là, on a une proximité, effectivement, qui pourrait rendre ça différent. Puis c'est ça aussi le bémol, je pense, avec les Cowboys, c'est que c'est encore très, très récent, peut-être. Puis j'ai trouvé ça intéressant, je vous ai comme sorti un genre de 2 minutes du début de la conversation, là, vous allez voir, on entend Pat Bissonnette, j'en dis de comment eux ont décidé de gérer ça en famille.
Écoute, c'est intéressant que tu me contactes là-dessus parce que ça fait partie un peu de la démarche depuis 2016. Comme on sait, en 2016, Bob est parti. J'ai repris un peu avec ma famille l'entreprise Bob Bissonnette là, et toute la musique. Et on avait 3 points importants à l'époque. C'était honorer sa mémoire, réaliser les projets inachevés de Bob, puis que sa musique continue de jouer le plus possible. Et pour ça, ben d'une part, on a fait faire des partitions. Ben, j'ai fait les partitions avec Fred Simard, le guitariste, de toutes les tunes de Bob, accessibles gratuitement sur le site. Pourquoi? Parce que j'aimais entendre les tunes de Bob autour du feu ou les feux de camp, les affaires de même. Pour moi, c'est ça, garder la musique vivante. Puis, l'autre chose, c'est les groupes hommages. Et les groupes hommages, il y en a 6 actuellement qui sont actifs. Il y a eu 850 shows depuis 2016 sur le site de Bob. On met toutes les dates de ces shows-là.
Ah ouais.
Sont indépendants de nous. Mais pour moi, c'est ça, garder la musique vivante. J'ai une vision un peu différente de Jean-François Posé que j'adore, les Cowboys fringants sont écœurants, mais cette vision-là, on l'a un peu différemment.
Est-ce que ces bands-là, avant de commencer leurs activités, ont tous pris contact avec toi ou autres proches de Bob?
Oui, ils m'ont tous contacté. Il n'y en a aucun là-dedans qui me semblait vouloir avoir des intentions malveillantes. C'est des gens qui apprécient Bob. Tu sais, quand tu fais un hommage, faut que tu aimes l'artiste que tu rends hommage, parce que c'est beaucoup de temps de pratique. Donc, oui, ils m'ont contacté. Ils ont une très bonne intention. Fait que pour moi, ça a été très positif.
J'aime beaucoup sa vision des choses parce que, tu sais, ça va plus loin que bien des artistes. Là, on prend tous les groupes hommages de Bob Bissonnette, puis sa page de Bob Bissonnette, tu mets les dates, tu mets les noms.
Ils ont pris le taureau par les cornes.
Tu sais, il est capable de dire, il y a 6 groupes hommages à Bob Bissonnette, ils ont fait 850 shows à travers la province.
S'il y en a un demain matin qui a une mauvaise réputation, ça va savoir assez vite.
Ouais, ben oui,
il
ben
racontait
oui.
que c'est arrivé une fois qu'il y a un band qui n'a pas demandé la permission, puis Pat les a contactés.
Il les a appelés.
Oui. Puis le band, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment le rejoindre. Ils ne savaient pas.
Parce que ça, c'est l'autre affaire. Ouais, là. Pis... Souvent, quand tu te lances dans le band d'hommage, ça commence d'un sous-sol ou d'un garage.
C'est ça. Les gars ont super bien réagi. Puis Pat a dit, écoute, on va vous pousser, on va vous mettre sur le site.
C'est la dernière chose auquel pense un groupe hommage, c'est faire le profit. Moi, je pense que la plupart, c'est par amour puis par dévotion. Puis il y en a qui vont, écoute, se ruiner bien plus que de faire de l'argent avec ça, parce qu'ils vont toujours réinvestir sur leur projet en achat d'équipement, puis ainsi de suite.
Tu sais, parce que j'ai écouté l'entrevue. En fait, j'ai écouté l'entrevue au complet, puis je me suis comme rendu compte que y a un point qui lie, si on veut, la famille de Bob Bissonnette, puis un peu Jeff Posey, Marianick Lépine, puis c'est la douleur, tu sais, sur le coup. Mm-hmm. C'est sûr que quand Bob est décédé les premières années, ça passait pas super bien, non, les gros hommages. Tu sais, c'est pas tout l'entourage qui réagissait bien, puis justement, on se posait ces questions-là légalement.
Ce qui est normal en passant.
Ben oui, absolument, mais rapidement, on s'est rendu compte que il y a de quoi de beau, on le garde vivant, mm-hmm. en gardant ses mimiques, ses gorgées, c'était, on garde un peu son spirit sur Terre avec nous. J'espère que Jeff Posey va se rendre là, honnêtement.
Puis, je pense qu'il y a une distinction aussi entre un groupe qui va charger cher des billets pour voir un groupe hommage de manière illégitime versus un groupe hommage qui est dans un bar où tu n'as même pas de cover charge. Les gens vont là pour voir le groupe, ils vont consommer de la bière et tout le kit. C'est tout ce que tu as comme cachet, c'est ce que le bar ou le festival va bien vouloir te donner versus nous, on se loue une salle là, de 5000 personnes puis on utilise l'image de quelqu'un pour faire de l'argent. Je pense que là aussi, il y a une bonne marge.
Il y a une différence aussi entre un groupe hommage amateur puis un groupe hommage professionnel. Tu sais, le Australian Pink Floyd Show.
Eux autres, ils ont le OK.
Eux autres, ils ont le OK. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus le plus gros groupe hommage de Pink Floyd puis qu'ils font des tournées internationales. Musical Box, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des passionnés de la musique de Genesis. Puis à un moment donné, les gars de Genesis en catimini sont presque tous allés voir le show. Même que Phil Collins, à un moment donné, dans le temps qu'il était encore capable de drummer, a drummé une portion du show avec eux autres. Puis c'est allé plus loin que ça. Quand Musical Box a voulu recréer le show de The Lamb Lies Down on Broadway, qui date de 1974. Il y a énormément de trucs techniques, puis il y a beaucoup, je pense qu'il y a 400 ou 500 diapositives qui sont présentées. Genesis, ils les ont donné, les originales qu'il y avait. Ils disent, regarde, nous autres, ça sert pas. Au lieu de faire de la recherche, puis de vous, regarde, on vous donne le matériel original pour que vous puissiez donner le show le plus fidèle possible. Tu sais, Elvis Fontaine, Martin Fontaine, un moment donné,
une bénédiction qui vient avec.
Exactement. Puis je pense que c'est important quand tu commences à faire de l'argent, puis que ça devient une entreprise, de donner signe de vie. Puis au Québec, on est petit. Je pense que si un band faisait ça de la mauvaise façon, sans se rendre aux bonnes personnes, c'est pas long que ça ferait le tour. Mais je pense que dans le cas de Posé, c'est peut-être un peu... Puis je peux comprendre, il aimerait peut-être ça avoir encore son chanteur puis aller en Europe chanter des tunes des Cowboys fringants.
Je pense que lui a aussi une tournée, si je me trompe pas, puis là j'y vais vraiment de mémoire, mais en Europe, fait que je sais pas s'il y a une frustration personnelle à travers ça, de il sera pas le premier à faire les tunes des Cowboys, parce qu'il faut dire
que... Il y a un gros hommage versus lui qui est écrit.
Absolument, on se comprend, mais tu sais, je te parle... Tu sais, Véro, des fois, avec l'émotion...
T'as raison.
C'est, ça vient beaucoup. Il y a LP...
Puis t'as raison, il s'en va en Europe au début de l'année 2027.
Fait que, tu sais, il y a LP qui dit sur le texto, je pense que les artistes sont libres d'approuver ou non les hommages. Il dit, les groupes hommages font ce qu'ils veulent, mais quand ils ont l'approbation des originaux, pour moi, c'est une garantie de la qualité de l'hommage aussi. Il y a peut-être ça, fait que c'est peut-être avantageux pour un band d'hommage qui veut être pris au sérieux de contacter, si on veut, les originaux. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui est comme un peu empathique à Jeff Posey, parce que je trouve le débat super intéressant, parce que légalement, je veux dire, il n'y a personne qui est obligé à rien dans cette histoire-là.
Exact.
Mais il y a une partie de moi qui saisit aussi l'espèce de douleur peut-être encore associée, tu sais, autant Marianick Lépine que Posey, ils essaient de se débattre avec leur carrière solo.
Ouais, mais tu sais, il y a moyen de...
En deuil encore aussi, là?
Sûrement. Puis ça, le deuil, ça prend le temps que ça prend. Mais l'autre aspect, si tu veux le voir du bon côté, le fait qu'il y a des groupes hommages, ça peut te libérer de l'œuvre aussi. Tu sais...
Je pense qu'il n'était pas prêt à ça. Peut-être.
Parce qu'il y avait des groupes hommages avant même le décès du chanteur.
Ouais, parce que peut-être aussi de voir justement que le band d'hommage part en tournée européenne puis qu'on en parle plus que de son show à lui. C'est peut-être un peu froissant aussi, là, mais au-delà de ça... Si l'artiste veut le voir d'une bonne manière, il peut se dire, écoute, si tu veux un show des Cowboys fringants, il y a plein de gros groupes hommages qui te font un show des Cowboys fringants. Moi, je vais t'en faire une coupe. Je ne t'y ferai pas toutes. J'ai des tonnes à moi que je veux faire. Tu comprends-tu? De dire, ça te libère de l'œuvre. Genesis, c'est un peu ça avec Musical Box, de dire, bon, ben on va arrêter de se faire écœurer. Peter Gabriel, il reviendra pas dans le groupe. Puis si vous voulez voir le vieux stock, ben il se promène à la grandeur de la planète. Eux autres, allez y voir. Mm. On serait plus capable de jouer ces tunes-là. Eux autres sont encore capables de les jouer avec beaucoup d'exactitude. Mm. Fait qu'allez les voir. Je pense que Pink Floyd, ça a été une façon aussi. Tu sais, il y a bien des bands ou des artistes qui disent, ben rendu là, si vous voulez entendre du vieux stock comme dans le bon vieux temps, allez voir ce groupe hommage-là qui fait une belle job.
Absolument.
Puis dans un monde où maintenant ça coûte 400-500$ aller voir un artiste original, ben peut-être que de payer 35$ ou 18$ pour aller voir le groupe hommage au Cécile et Ramone ou ailleurs dans la région de Québec, ça devient l'alternative pour bien du monde. J'écoutais l'excellent Rick Beato, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, là. Le gars qui est un tripeux de musique. Lui, il dit le rock est mort à partir du moment où quelqu'un qui travaille toute la semaine n'est pas capable de se payer un billet pour aller voir son artiste préféré.
C'est tellement vrai.
Puis lui place la date, je pense, au début des années 2010, là, où les prix de billets ont comme explosé.
En fait, c'est du moment où on a arrêté de faire de l'argent avec les disques, puis qu'on s'est mis à presser les tournées, puis ce qu'on vend en tournée comme un citron qui n'a plus aucun jus.
Tu sais, le rock, c'est la classe ouvrière. Le rock, c'est du monde qui travaille fort, puis qui veulent aller voir un show des CDC, puis qui ne sont plus capables. Je trouve que sa réflexion est super brillante. Ben, c'est ça, les groupes hommages.
Ouais.
Ça permet à un petit gars comme moi qui trippe musique au Saguenay d'avoir accès à de la musique live. Puis souvent, c'est le seul accès qu'on a à de la musique live.
Ça peut permettre des passions.
Ben oui, de payer 15$ pour aller voir un hommage à Pink Floyd à l'abbé ou, tu sais.
Ton show hommage, ça peut se transformer quand tu vas être plus vieux en billet de spectacle qui va faire vivre un autre artiste.
J'espère que Posé va revenir sur ses déclarations. Je sais que là, le Soleil l'a contacté, puis c'est sûrement pas le seul média à l'avoir fait, puis qu'il veut pas revenir là-dessus. Il a pas effacé sa publication non plus. Quoique c'est des shorts, là, est plus disponible, mais tout le monde l'a vu passer, puis tout le monde l'a copié là, d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je pense que ce serait vraiment intéressant de connaître le fond de sa pensée puis de savoir s'il a juste eu une petite crampe au cœur ou s'il pense vraiment que les groupes hommages font de l'argent sur le dos des artistes. J'aimerais ça avoir le fond de sa pensée là-dessus. C'est un gars brillant, il a écrit des belles tonnes. Il est 4h-10, Véro.
Dans les autres sujets, merci à la personne qui nous texte. Il y a une belle petite neige dans le parc.
Bon.
J'apprécie ta poésie. Je suis pas sûre que belle petite, ça rentre, mais voilà.
On va s'arrêter quelques secondes. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 418-971-1021. On vous rappelle qu'il y a des avertissements en vigueur, risque de gel au sol ce soir et l'autre nuit d'après, celle de jeudi à celle de vendredi à samedi.
Oui.
Pardon.
On est jeudi aujourd'hui.
Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est un mercredi qui ne finit jamais cette semaine-là. Et on a des risques d'orage également pour l'après-midi. Midi avec des risques de grêle dans plusieurs endroits de la région. Dans la dernière heure, ça a tombé un petit peu. Gravel.